Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Québec se taille une place dans Le Petit Robert. Un texte de Marie-Ève Moras, paru le 14 mai 2025 dans La Presse. Ça se bouscule au portillon chaque année, mais l'équipe du Petit Robert a tranché. 150 nouveaux mots, expressions et sens nouveaux se retrouveront dans les pages de l'édition 2026 du dictionnaire. Parmi les élus, pelleteux de nuages, cône orange, chill, c'est carré et périménopause. Des ajouts bien de chez nous. L'hiver est rude au Québec, mais un pelleteux ou une pelleteuse n'est pas seulement quelqu'un qui doit se débarrasser d'un trop-plein de neige. On l'utilisera plus couramment dans l'expression « pelleteux de nuages » pour désigner une personne rêveuse qui perd son temps à échafauder des projets chimériques. Chimérique? De chimère, une idée sans rapport avec la réalité. Pas besoin d'expliquer à un Montréalais à quoi sert un cône orange, à rager notamment. Mais ailleurs dans le monde, ces deux mots mis ensemble ne réfèrent à rien. En France, les cônes sont aussi oranges, mais on ne dirait jamais cône orange pour désigner des travaux, dit Géraldine Moinard, lexicographe et directrice de la rédaction des dictionnaires Le Robert. L'abréviation balado, passée dans l'usage depuis un bon moment au Québec, se ferait également une place. Des anglicismes, c'est chill. Débanquer, D-E-B-U-N-K-E-R, démontrer la fausseté d'une information ou d'une théorie, prompter, dresser une requête en langage naturel à une intelligence artificielle, et chill figure au nombre des anglicismes qui sont ajoutés au dictionnaire. Or, c'est très loin d'être la majorité, et Géraldine Moinard commente en riant qu'elle aimerait bien qu'on lui parle de tous les autres mots qui ne sont pas des anglicismes. Elle juge toutefois normal qu'on s'y attarde. C'est ceux qu'on remarque, parce qu'on n'a pas envie qu'ils soient là. Mais s'ils sont là, c'est parce que les gens les emploient. Le Robert n'écrit pas les anglicismes, il en fait état, défend Mme Moinard, qui ajoute qu'avec chaque anglicisme vient une recommandation en français. Un prompt, c'est une requête. Un des défis qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques où la langue d'usage, c'est l'anglais. On se retrouve à utiliser des outils qui ont été pensés en anglais avec la terminologie en anglais. Rappelle la sociolinguiste Béatrice Réa. Comment choisit-on les mots? Les linguistes du Petit Robert pigent dans toute la francophonie, 32 États ou gouvernements, 5 continents, précise-t-on, pour choisir les mots qui entrent dans leur dictionnaire. 3 critères sont utilisés. Les mots doivent être employés par un nombre suffisant de personnes, avoir une diffusion auprès de personnes variées et être pérennes, et non un effet de mode, explique Géraldine Moinard. Les mots entrent dans le dictionnaire parce qu'ils sont dans l'usage courant, et non l'inverse, précise la sociolinguiste Béatrice Réa. Ça agrandit le code des possibles pour tout ce qui est écriture formelle, mais ça ne va rien changer sur la façon dont les gens parlent. Un nouveau mot dans le dictionnaire, ça va toujours être une sorte de regard dans le passé, explique-t-elle. Des nouveautés, vraiment? on voit périménopause. Comment ça? Ce mot-là n'était pas déjà dans le dictionnaire? Demande la sociolinguiste Béatrice Réa, qui a consulté la liste à notre demande. À cela, Géraldine Moinard répond que parfois, c'est parce qu'on n'est pas certain de la pérennité d'un mot ou que plusieurs termes entrent en concurrence. Dans ce cas précis, préménopause aurait pu aussi s'imposer. Parfois, c'est juste parce qu'il y a des humains derrière les décisions et ça passe entre les mailles du filet pendant quelques années, indique la lexicographe. Ajoutez à votre vocabulaire. C'est carré pour dire c'est parfait. Benzine en lieu et place de pédale d'accélérateur. Si vous allez au Liban, demandez au chauffeur de taxi d'appuyer sur le benzine. En commissionner, comme les Belges, si vous soumettez une question à l'examen d'une commission, souvent dans le but de retarder une échéance, de gagner du temps. Carac, si vous avez un penchant pour le sucré. En Suisse, on saura que vous parlez d'une tartelette garnie d'une ganache au chocolat et recouverte d'un glaçage de couleur verte. C'était « Le Québec se taille une place dans le Petit Robert ». Un texte de Marie-Ève Moras, paru le 14 mai 2025 dans La Presse.
Des femmes au foyer et davantage d'enfants dans l'Amérique de Trump. Un texte de Fabien Deglise, paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir. Il n'y a pas que le diable qui se cache dans les 389 pages du projet de loi sur la fiscalité qui, cette semaine, va animer d'importantes négociations politiques au sein du Congrès américain. Le One Big Beautiful Bill, premier grand et superbe projet de loi, c'est le nom que lui a donné la Maison-Blanche, saisit aussi en quelques lignes le vaste projet que s'est donné le gouvernement américain de relancer la natalité aux États-Unis, en baisse depuis plus de 50 ans, comme dans la plupart des pays industrialisés à travers le monde. Une quête de baby-boom qui, derrière une réduction d'impôts pour les familles de deux enfants, l'élargissement de l'accès à la garde d'enfants ou la pérennisation d'un crédit d'impôt pour congés payés est aussi guidé par la volonté du nouveau gouvernement de renouer avec l'image passéiste d'un pays dans lequel les femmes procréaient tout en restant à la maison. Il n'y a aucune raison de penser que les politiques natalistes aux États-Unis vont se montrer efficaces et faire augmenter la natalité, résume en entrevue le sociologue Philip Cohen, spécialiste de la démographie américaine à l'Université du Maryland. L'expérience des pays européens, dont la Norvège et la Finlande, montre que même les projets les plus ambitieux ont peu de chances d'avoir des effets significatifs, et rien de ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement américain n'atteint ce niveau. Il ajoute « La réussite d'une politique nataliste repose finalement sur son échec. Autrement dit, elle échoue à augmenter la natalité, mais elle parvient à atteindre un autre objectif, à savoir faire la promotion des familles traditionnelles, des relations de genre patriarcales et une vision nostalgique de l'histoire. » Difficile de ne pas voir la forêt derrière l'arbre que pointe du doigt Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. En février 2025, le populiste s'est autoproclamé président de la fécondité, en signant un décret visant à améliorer l'accès à la procréation assistée. La mesure, selon lui, vise à reconnaître l'importance de fonder une famille et la nécessité pour les politiques publiques de notre pays de faciliter la procréation pour les mères et les pères aimants et désireux d'avoir des enfants, a-t-il justifié à l'époque. Son proche conseiller et allié politique, le propriétaire de la compagnie Tesla, Elon Musk, se pose également en chantre de la procréation, en prêchant d'abord par l'exemple. Il est le père de 14 enfants et se fait une fierté d'avoir ainsi semé à tout vent avec la contribution active de 4 femmes. Civilisation menacée. L'humanité est en train de mourir, a récemment déclaré le milliardaire sur les ondes de Fox News pour justifier sa cellule familiale élargie et inciter le mâle américain à marcher sur ses traces. Le taux de natalité est très bas dans presque tous les pays. Si cela ne change pas, la civilisation va disparaître. En janvier 2025, le vice-président J.D. Vance a également déclaré vouloir plus de bébés aux États-Unis. C'était lors d'un rassemblement politique anti-avortement tenu à Washington. Le républicain, père de 3 enfants, inscrit d'ailleurs son appel dans une série de remarques cherchant à faire la promotion de la famille traditionnelle, tout en dénigrant au passage les femmes qui n'ont pas d'enfants. En 2022, alors en campagne pour devenir sénateur de l'Ohio, Vance avait vanté les vertus de la femme au foyer en dénonçant, dans les pages du Wall Street Journal, le principe des garderies subventionnées qui contribuent à l'éclatement de la famille traditionnelle, selon lui. Les jeunes enfants sont plus heureux et en meilleure santé lorsqu'ils passent la journée à la maison avec un parent, avait-il écrit. Aux États-Unis, ce parent est, dans plus de 80% des cas, une femme, selon les récentes enquêtes du Pew Research Center. Encourager les femmes à avoir des enfants est un retour en arrière, et les femmes d'aujourd'hui, si elles lisent et réfléchissent, le voient très bien, commente Susan Campbell, qui enseigne le journalisme à l'Université de New Haven et chronique sur la politique dans les pages du Connecticut Post. La dernière fois que les États-Unis ont connu un baby boom important, l'économie était florissante et le gouvernement mettait en place certains programmes pour encourager et soutenir les familles. Pour beaucoup, avoir un enfant est une façon d'exprimer son espoir en l'avenir. Quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, est-ce que le mot « espoir » est celui qui arrive en premier? A-t-elle demandé lorsque jointe par le Devoir cette semaine. Le mouvement pro-natalité, tout comme ses nouveaux alliés et porte-voix à la Maison-Blanche, ne devrait pas s'enfarger dans ce genre de détails, préférant dégainer ses idées et laisser croire qu'elles vont enrayer un taux de natalité au plus bas, à 1,62 enfants par femme. Trump a proposé de parrainer des programmes de formation à la procréation offerts aux jeunes filles en guise de cours d'éducation sexuelle ou de décerner des médailles aux mères actives pour leur contribution au renouvellement de la nation. Des mesures terrifiantes pour ceux et celles qui se souviennent de leur implantation dans l'Allemagne nazie ou dans la France collaborationniste du maréchal Pétain. En janvier 2025, le cocktail natalisme et clientélisme prisé par les régimes autoritaires a également été servi dans une note du secrétaire américain au transport, Sean Duffy, qui a demandé à son ministère de favoriser les projets de construction et d'infrastructures dans les communautés dont les taux de mariage et de natalité sont supérieurs à la moyenne nationale. Une directive certainement guidée par J.D. Vance qui, tout comme son patron, aime la politique transactionnelle, surtout quand elle défend intérêts privés et idéologie du trumpisme. L'important pour eux, ce n'est pas d'accomplir quoi que ce soit dans le monde réel, dit le sociologue Philip Cohen. Ce qu'ils veulent, c'est que le public soit témoin au quotidien de leurs projets politiques et culturels. Cela se passe de la même manière dans tous les régimes autoritaires. Ils font la promotion d'une natalité élevée, échouent à la faire augmenter, mais en tire une image qui apporte du soutien à leur mouvement. C'était « Des femmes au foyer et davantage d'enfants dans l'Amérique de Trump », un texte de Fabien Deglise paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir.
Maladie de Lyme. À quand un vaccin? Un texte de Bruno Lamollet, paru le 9 mai 2025 dans Québec Science. Les cas de maladie de Lyme augmentent en flèche au Québec. Comment expliquer l'absence de vaccin? Pendant que les humains attendent un vaccin contre la maladie de Lyme, il en existe un depuis de nombreuses années pour les chiens. Pourtant, un vaccin humain avait été approuvé en 1998 par la Food and Drug Administration américaine, FDA. Mais le peu d'intérêt du public à l'époque et les pressions de groupes anti-vaccins sur la base de rumeurs infondées ont mené la compagnie à cesser sa production. Cet épisode a refroidi les ardeurs des compagnies à concevoir un vaccin humain pendant de nombreuses années. Mais avec l'augmentation du nombre de cas, la demande est devenue forte. À l'automne 2025, la fin de la saison des tiques marquera la conclusion de la phase 3, la dernière, des essais cliniques pour un vaccin mis au point par les compagnies Pfizer et Valneva. Des demandes d'approbation pour commercialisation pourraient être faites en 2026 auprès de la FDA. La rivale de Pfizer, Moderna, est, elle aussi, dans la course avec deux vaccins à ARN messager en cours de développement. Ces trois vaccins sont dirigés contre une protéine située à la surface de Borrelia burgdorferi, la bactérie à l'origine de la maladie de Lyme. De son côté, Mass Biologics, une entreprise appartenant à la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts, a pris une autre piste, l'injection d'anticorps produits en laboratoire. L'avantage? Pas besoin d'attendre quelques semaines après la vaccination que le corps produise des anticorps. L'inconvénient? La protection ne dure pas longtemps. On recevrait une injection au début de chaque saison ou pour un voyage en région infestée. Les tests chez les humains sont en cours. Injectés ou produits par le système immunitaire, les anticorps contre la Borrelia entrent dans la tique pendant que celle-ci s'abreuve du sang de sa victime. Ils se fixent à la bactérie, ce qui empêche son excrétion dans le sang humain. Toutefois, ils protègent seulement contre la maladie de Lyme, alors que les tiques peuvent transmettre d'autres maladies. C'est pourquoi une équipe de l'Université Yale au Connecticut tente une autre stratégie, un vaccin dirigé contre des protéines salivaires de la tique. Résultat, la tique s'abreuve moins bien et transmet moins bien la bactérie et fort probablement d'autres agents pathogènes. De plus, avec cette approche, la piqûre de la tique, normalement indolore, provoquerait une inflammation visible. On pourrait alors repérer et enlever l'acarien plus rapidement avant qu'il injecte la bactérie. Toutefois, on en est encore au stade des études de laboratoire chez les animaux. À suivre. Enfin, dans une étude de mars 2025, des scientifiques de l'Université Virginia Commonwealth rapportent avoir découvert des molécules capables de bloquer une protéine spécifique à la Borrelia et essentielle à son métabolisme. Autrement dit, des médicaments potentiels qui ne cibleraient que la Borrelia. Reste à savoir s'ils fonctionneront chez des êtres vivants. C'était « Maladie de Lyme. À quand un vaccin? » Un texte de Bruno Lamollet, paru le 9 mai 2025 dans Québec Science.
La BD québécoise a maintenant sa maison, un texte de Sébastien Tanguay, paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir. Illustre, à l'international, mais encore méconnu dans ses propres contrées, la bande dessinée québécoise a désormais sa propre maison pour rayonner. Le 9e art fait son nid, pour la première fois au Canada, à Québec, dans une maison de la BD qui témoigne autant de la richesse de son histoire que de sa vitalité contemporaine. La BD a établi sa maison au Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy, dans l'écrin patrimonial d'un des plus anciens presbytères au Québec. L'austérité du lieu disparaît sitôt les portes franchies. Les murs bariolés indiquent à grands traits de crayon qu'ici, dans l'enceinte d'une religion qui a longtemps confiné l'imagination à l'étroitesse de son dogme, la place appartient désormais à un art qui l'affranchit de toute limite. Nous voulons montrer la richesse du médium à travers tous les styles et toutes les époques, explique le directeur général de Québec BD, Thomas-Louis Côté. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert la bande dessinée dans les dernières années grâce à de grands noms comme Paul de Michel Rabagliati, mais qui ne soupçonnent pas le grand historique du 9e art au Québec. Un siècle d'évolution dessinée. Le rez-de-chaussée offre un tour d'horizon de ce passé à grand renfort de planches originales et de caricatures. L'exposition entièrement gratuite raconte l'influence du cartoon américain, l'émergence de la contre-culture dans les années 1960 et 1970 et remonte le fil du temps jusqu'au couronnement actuel de la BD québécoise, autant ici qu'à l'international. La visite propose également de dépoussiérer quelques pépites étonnantes glanées du début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est au Québec, par exemple, que la première bande dessinée à phylactères a germé au sein de la francophonie. La série « Les aventures de Timothée », créée par Albéric Bourgeois, a utilisé la bulle dès 1904, soit presque 15 ans avant les Français, souligne M. Côté, et un quart de siècle avant Hergé et son Tintin. L'Américain Jerry Siegel, co-créateur d'un certain Superman, a aussi collaboré avec le Québécois Michel Roy pour élaborer les enquêtes du détective privé Ken Winston dans les années 1950. C'était une époque où la BD du Québec s'autorisait lentement à battre d'autres sentiers que ceux tracés par l'Église, qui menaient à des albums de catéchisme comme « Histoire de Dieu en images ». L'exposition montre aussi la place que les femmes ont progressivement prise dans l'univers de la BD québécoise. Depuis la pionnière Yvette Lapointe, première à porter le crayon au Québec, avant que son mariage freine sec sa carrière en 1943, jusqu'à Julie Doucet, sacrée lauréate du Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2022, en passant par la danseuse Sylvie Rancourt, qui vendait ses albums à la clientèle venue voir ses striptease, les bédéistes québécoises ont su trouver la voie qui mène aux plus grands honneurs. La variété qu'il y a maintenant n'était pas là il y a même 20 ans, explique Thomas-Louis Côté. La BD a aussi atteint une certaine maturité. Avant, ce n'était pas une vraie lecture. Aujourd'hui, elle est étudiée au cégep. Il y a des maisons de plein de choses, mais la bande dessinée, c'est un art qui était populaire et qui a longtemps été considéré comme moins noble que la poésie, par exemple. Avoir une maison, c'est une façon de lui donner ses lettres de noblesse. Nous voulons montrer la richesse du médium à travers tous les styles et toutes les époques. Une maison aussi vivante que le 9e art. Loin d'élever la bande dessinée sur un piédestal, jusqu'à la rendre hors d'atteinte, la maison de la BD veut, au contraire, la démocratiser. Au-delà de l'exposition évolutive qui verra une rotation régulière des œuvres présentées, une programmation régulière viendra vivifier l'endroit. Lancement d'œuvres, ateliers donnés par des auteurs et autrices de Québec ou de passage dans la capitale, matinées de dessins animés, salles de lecture ou activités interactives apparaissent déjà au menu. Les adultes et les enfants trouveront leur compte, assure Thomas-Louis Côté. C'est un quartier où il y a beaucoup de familles et où il y a une importante communauté ethnique aussi. L'idée, c'est de développer une programmation qui s'adressera à tout le monde. Un volet international pourrait éventuellement s'ajouter dans le cadre d'expositions temporaires, des ateliers de création hebdomadaires sur inscription aussi. Offrir un domicile à la BD d'ici se veut aussi une manière de confirmer son ascension et son caractère national. Le lectorat augmente d'année en année, les maisons d'édition sont en bonne santé et les BDistes de plus en plus nombreux et reconnus, souligne le directeur général de Québec BD. L'agent Jean, c'était la série la plus vendue au Québec il y a quelques années, toutes catégories de livres confondues. Son auteur, Alex A., a créé la première série qui va devenir la référence chez les jeunes. Leur héros d'enfance, ce ne sera pas Spirou ni Tintin, ce sera l'agent Jean. La maison se veut aussi une vitrine pour des artistes qui ne sont pas prophètes en leur pays. Quelqu'un comme Yannick Paquet, qui a dessiné Superman et Wonder Man, fait les Comic-Con partout sur la planète, mais on ne le voit pas dans des événements littéraires au Québec. Julie Doucet a une influence incroyable en Europe et même ailleurs, mais elle n'était pas si connue ici jusqu'à tout récemment. Denis Rodier, c'est un dessinateur qui a dessiné La mort de Superman, un succès planétaire avec 6 millions d'exemplaires vendus. Il a aussi fait La bombe, traduite en 21 langues. Ce sont des réussites dont on n'entend pas beaucoup parler. Pourtant, ces exploits, conclut Thomas-Louis Côté, méritent d'être célébrés. Ça tombe bien, la BD a désormais un toit pour les crier. C'était « La BD québécoise a maintenant sa maison », un texte de Sébastien Tanguay, paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir.